Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un premier extrait du roman de Dominique de Saint-Perne, Baronne Blixen. Comment chanter sa singularité, sa liberté, son souverain mépris des codes et des convenances? Dans ce roman vrai, de l'Afrique au Danemark, de New York à Londres, c'est toute une folle époque qui revit ici en couleurs et en cinémascope. Dominique de Saint-Perne ressuscite la femme courageuse et la diablesse, mais aussi l'âme de cet âge d'or où l'on savait aimer, écrire et mourir en beauté. La ferme m'attend au bout d'une longue allée aux courbes douces. Elle attend, prise dans son destin, qui fut toujours d'attendre et d'espérer. Attendre le retour des amis, Bror Blixen d'abord, puis Donnie Fishhatton et Berkeley Cole, qui parcouraient les grandes plaines de la Somalie au Tanganyika, franchissaient les frontières, les montagnes et les fleuves à la poursuite de gibier impossible, mais dont les montures retrouvaient toujours le chemin de la ferme. Mbogani, aussi stable que le cours d'une planète. J'ai possédé une ferme en Afrique, au pied du Nyong. La chaleur africaine s'est abattue d'un coup sur le tournage, chauffant à blanc les rues pavées de terre, écrasant le petit monde de figurants et de techniciens qui attendent que Sid lance son « Action !» Le passage des attelages au galop soulève des nuages de poussière rouge. Une rafale de vent fait danser un voile de sable jusqu'au trottoir en bois. Il rattrape notre petit groupe situé hors champ. Mes yeux brûlent, je tousse. Je crache, mais je la tiens enfin, ma Coronation Street bordée d'eucalyptus. C'est sidérant. La petite ville sauvage et délabrée, bâtie autour d'une tête de ligne ferroviaire, revit dans le moindre détail tel que Karen l'a connue à son arrivée. Le Nairobi de 1914, avec les devantures d'Osgood, de l'East African Standard Bank et ses doukas, tenus par des Indiens qui vendent leur bric-à-brac, et ces demoiselles, en robe de dentelle, qui vont et viennent pour leurs emplettes, laissant derrière elles un sillage de lavande anglaise. Tout existe, fictif, et si incroyablement vrai. Pas de reconstitution bidon, a ordonné le réalisateur. Après ma visite matinale à Mbogani, j'ai rejoint le quartier général du film sur ce qui fut les terres de Karen. Un camp militaire sous tension, plutôt. Une armée de tentes kaki a été dressée pour le maquillage et l'habillage des acteurs. Dans cette ruche infatigable, où les anachronismes se télescopent, de pseudo-colons sirotent leurs canettes de coca. Un dresseur de fauves de Las Vegas flirte avec une fille en crinoline. Une centaine de Maasai et des Kikuyu, indifférents à la chaleur accablante, font la queue devant une tente. Ils attendent que les maquilleurs les travestissent en Maasai et en Kikuyu. Tunique de peau, parure magnifique, maquillage de guerre. L'actrice apparaît sur le seuil de sa tente, un peu à l'écart de l'agitation. La toilette ivoire, délicatement ajustée, la calotte de paille de guingois sur le crâne avec sa subtile voilette. Karen sur les photos prises par son frère Thomas. Raffinée, aristocratique, avec déjà un zeste d'intrépidité. En me voyant approcher, l'actrice prend la pose, main sur la hanche. « Voyons, Clara, qu'en pensez-vous? Ces horribles corsets sous les tropiques, comment ces femmes se débrouillaient-elles pour supporter un supplice pareil ? » dit-elle en mimant l'asphyxie. « Elles étaient aussi futées que les femmes d'aujourd'hui. Karen a coupé sa longue crinière, plutôt mal commode pour un safari de plusieurs mois dans la brousse, et supprimé le corset. Elle écrivait à ses amis de la métropole. « Coupez-vous les cheveux et apprenez à conduire une automobile. Ces deux choses-là changent le cours de l'existence. » On l'aurait vu porter des shorts si elle avait eu les jambes et le mental qu'il fallait pour ça. Une maquilleuse s'empresse et soulève la voilette pour traquer une goutte de sueur sur le nez de l'actrice qui soupire en désignant de la main sa mise jusqu'aux bottines. « Franchement, Clara, elle méprisait ses franfreluches. Quelle idée ! C'est extravagant comme elle aimait ça !» Karen écrivait à son frère Thomas. « Je n'ai jamais connu de chagrin assez grand que l'achat d'un chapeau neuf ne puisse soulager. » Alors même qu'elle tenait sa ferme à bout de bras, affrontait la sécheresse, puis les inondations, tout en se battant contre la maladie. Ses poches vides ne l'empêchaient pas d'avoir un mannequin à ses mesures chez Paquin. Le style, jusque dans la brousse, où elle superposait deux chapeaux à large bord, ne relevant que celui du second. Un chic fou. Vous savez, Miss Tripp, Karen pensait que notre aiguillage définitif, vers le paradis ou vers l'enfer, dépendrait de la manière dont on associait les couleurs de nos vêtements. Bien ! J'adore l'idée d'incarner une femme profonde et frivole. Rien de plus assommant que de jouer la perfection, non ? L'obscurité est à peine troublée par la lumière mouvante de l'écran. Les yeux plissés derrière ses lunettes, le réalisateur enchaîne les cigarettes. « On garde cette prise, dit-il. » Puis le silence retombe. La tente transformée en salle de visionnage se laisse envahir par les voix venues de l'écran. Dans le fauteuil de camping, à côté du mien, l'actrice croise et décroise ses jambes sans que ses yeux quittent les images répétées à l'infini. Ce matin, elle a tourné sa première scène, une scène aussi cruciale pour le film qu'elle le fut pour Karen dans la vie réelle. 6 mois après son arrivée en Afrique et son mariage avec Bror Blixen, des malaises à répétition l'ont conduite chez le médecin à Nairobi. La caméra a filmé un paravent. On aperçoit la crête des cheveux mousseux de la jeune femme, on entend un froissement d'étoffe, on devine le vêtement enfilé. Puis, la voix off du médecin. « Vous avez la syphilis. » Derrière le paravent, le silence du corps qui s'est immobilisé, tandis que les 4 mots cheminent jusqu'à la conscience. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage lorsqu'elle m'a fait cette confidence. Nous étions à Runstallund, dans son bureau, elle et moi, seuls, derrière la fenêtre. Il y avait la rumeur de la mer. C'était en 1944. Je venais d'entrer à son service. Nous discutions de choses élevées. Je me la rappelle, debout, une main appuyée sur le dossier du sofa, l'autre tenant une cigarette. Elle m'avait fixé avec gravité, ou plutôt jaugé, sous-pesant le pour et le contre. Est-ce que je méritais sa confiance? Les mots avaient claqué. Clara, j'ai eu la syphilis. La souffrance tordait ses traits. J'ignorais qu'un être vivant pouvait exprimer une douleur aussi intense. J'avais déjà rencontré cette souffrance, mais c'était sur un tableau du Christ en croix. Enfant, mon père m'avait emmené au musée de Copenhague et j'avais été terriblement impressionnée par une scène de crucifixion. Des années plus tard, j'étais allée voir le tableau à nouveau, puis j'y étais retournée et retournée, fascinée par le visage, espérant qu'il me livre peu à peu ses secrets. Et c'est précisément cette expression que je lisais sur les traits de Karen, dans ses yeux. Une femme sur la croix, ses boucles argentées, caressées par la belle lumière du soir d'été. J'étais restée muette. La baronne, syphilis, ces 2 mots appartenaient à des univers étanches l'un à l'autre. Elle avait continué, sans se soucier de mon embarras. Il y a 1000 façons d'apprendre l'infidélité d'un mari. Moi, je l'ai découverte ce jour-là, de cette manière-là. Prenant une bouffée de sa cigarette, bien sûr, il faut mettre le mot « infidélité » au pluriel. Le baron Bror von Blixen-Finenck, son cousin, aimait jouir de la vie et des femmes. En l'épousant, Karen avait pensé que leur vie aventureuse au Kenya l'apaiserait. Au lieu de quoi, les occasions s'offraient à lui, faciles, dans ce que l'on appelait la vallée heureuse. Cet espace entre Nairobi et Gilgil, où les rejetons les plus scandaleux de la gentry britannique célébraient sans limite les années folles. Sexe, cocaïne, alcool. L'ambiance des Highlands, leurs 1800 mètres d'altitude, décuplait la folie et les sens. Il y avait eu les femmes Maasai. Comment aurais-je pu deviner que mon mari portait la syphilis ? Il était d'une constitution exceptionnelle. Aucun symptôme pour l'alerter. J'ai toujours pensé qu'il ignorait avoir en lui cette maladie abjecte. Sa moue de dégoût fit place à un sourire ironique. En pareil cas, une femme a le choix entre deux attitudes. Abattre l'homme ou accepter les faits. Le chuchotement de l'actrice dans mon oreille me ramène à l'obscurité de la tente. Quel enfoiré ! Ce type lui a fait les pires saloperies, n'est-ce pas ? Je me demande comment ils ont pu rester amis. Amis ? Rien de moins sûr. Je sais la baronne capable de garder sa colère au chaud, à l'abri de l'oubli. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout, ouh, oh, toi, que nous dansions ensemble. Toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait. Chanson de ma terre lointaine, toi qui parleras d'elle, maintenant disparue. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast. Laissez-moi vos impressions, vos commentaires, peut-être vos suggestions aussi, pourquoi pas, à propos de ma chronique en m'écrivant à ladiseusedemots@gmail.com. ladiseusedemots tout attaché. @gmail.com. À bientôt.
Les mots sont sans importance.